Antonio de Oroios Invidente, la Danteuse. Dans la glaciale sérénité de l'atmosphère, un cri de douleur retentit, puis un autre cri plus angoissé, plus violent, fendit les airs. Puis un autre, et un autre. Le fouet fin, nerveux, vibrant, siffla pour s'abattre sur les épaules nues du matelot. Il serpenta de nouveau pour s'abattre encore et puis recommencer. La victime était un grand garçon, musculeux, aux épaules énormes et aux larges crocs. Il était nu de la tête à la ceinture. Ses chairs se violaçaient sous le froid atroce du crépuscule arctique, et le fouet, en tombant, il laissait de profonds sillons bleus. Il avait les mains attachées à un mât au bateau, et la tête, petite et bien faite, inclinée sur la poitrine. Son visage était couvert d'une pâleur mortelle. Les dents blanches et fortes se clouaient dans les lèvres, essayant de contenir les cris de douleur, et dans ses yeux clairs et bleus, de grand enfant, il y avait une angoisse infinie. Wanda Orloff, étendue sur un couchette de coussin et de fourrure, contemplait impassible le martyre de sa victime. C'était une petite femme menue et fragile, tout en air. Elle avait les yeux gris, vagues, avec d'étranges reflets verts, les cheveux d'un blond clair, le nez droit, le menton énergique, volontaire, et la bouche aux lèvres très pâles et minces, cruelles. Le toc de chinchilla couvrait presque complètement sa tête, et une ample pelisse de la même peau l'enveloppait. Toute. À chaque coup de fouet, auquel elle répondait à un hurlement déchirant, angoissant du martyr, ses yeux fulguraient sur les lèvres, errant un sourire sadique de volupté, et sa main, fine et menue, se crispait sur la noble tête de Nero. Le Danois favori. À son côté, Georgette, Lebrun, la lectrice, attendait, le livre abandonné sur ses genoux, l'ordre de continuer la lecture de l'agonie de Lombard, cet ouvrage plein de magnifiques cruautés dont se récréait l'esprit blasé de la millionnaire. Et dans le visage vulgaire de la salariée se reflétaient aussi des cruautés, mais une cruauté ignoble, vulgaire, distante de la cruauté raffinée de Orloff. La princesse Wanda Orloff était russe. Et si au lieu de vivre en autre temps prosaïque, elle eût vécu en siècle passé, elle eût été éminemment, certainement, une de ces princesses légendaires qui épouvantèrent le monde par la magnificence de leurs crimes. Peut-être avec la tiare d'or et de pierreries en brisonnant la pâle chevelure, et les seins nus sous les colliers de perles, d'opales, de topazes, de turquoises et d'émeraudes, et lui demander de la tête du Baptiste pour boire à ses lèvres la teinte de pourpre et d'or couverte d'écranges tissus de soie, de voiles flottants et de cabalistiques royaux joyaux, qui t'allaient frissonner au contact du sang qui, sans éclat, et il lui fallait se contenter de son éphémère empire de millionnaire capricieuse et cruelle. Van der Lof, étendu sur sa couchette de coussin et de fourrure, contemplait impassible le martyr de sa victime. C'était une petite femme menue et fragile, tout en air. Elle avait les yeux vagues, avec d'étranges reflets verts, les cheveux d'un blond clair, le nez droit, le menton énergique, volontaire, et la bouche aux lèvres très pâles et minces, cruelles. La toque de chinchilla couvrait presque entièrement sa tête, et une ample pelisse de la même peau enveloppait toute. À chaque coup de fouet auquel répondait un hurlement déchirant, angoissant du martyr, ses yeux fulguraient. Sur ses lèvres errait un sourire de sadique volupté, et sa main, fine et menue, se crispait sur la noble tête de Nero, le Danois favori. À son côté, Georgette Lebrun, la lectrice, attendait, le livre abandonné sur ses genoux, leur ordre de continuer la lecture de l'agonie de Lombard, cet ouvrage plein de magnifiques cruautés dont se réservait l'esprit blasé de la millionnaire. Et dans le visage vulgaire de la salariée se reflétait aussi la cruauté, avec une cruauté ignoble, vulgaire, distincte de la cruauté raffinée de la Orloff. La princesse Van der Orloff était russe, et si au lieu de vivre en temps prosaïque, elle fut venue en ces siècles passés, elle était certainement une de ces princesses légendaires qui épouvantaient le monde par la magnificence de leurs crimes. Peut-être, avec la mare d'or et de pierreries emprisonnant la pâle chevelure et les seins nus sous les colliers de perles, d'opales, d'opaces, de turquoise et d'émeraude, elle demandait la tête de Baptiste pour boire à ses lèvres la passion de la volupté et de la mort, ou, couchée sous la tente de pourpre et d'or, couverte d'étranges tissus de soie, de voiles flottantes et de cannibalistiques joyaux, eût-elle frissonné au contact du sang chaud des victimes. Mais elle vivait à une époque sans éclat, et lui fallait son contentement de son éphémère empire de millionnaire capricieuse et cruelle. Encore enfant, son plus grand plaisir était de martyriser les oiseaux, les chiens, tous les animaux familiers. Puis, adolescente, elle assistait, frémissante, au châtiment que son père, l'ivrogne, violent, sujet à des féroces accès de colère blanche, faisait infliger au cerf pour la moindre faute. Femme, enfin, elle se sentit en proie à une lascivité taciturne et cruelle, comme possédée d'un maléfice diabolique, obligée, on ne sait à la suite de quelles sombres histoires, de quitter la Russie. Ce yacht devint le merveilleux Alcazar, 10, dans lequel la fille du roi vivait emprisonnée par ses passions. Comme un fantasmagorique bateau de malédiction, le palais flottant dans un cauchemar de sang et de mort errait par les mers polaires ou se berçait sur les vagues bleues des eaux du tropique au milieu d'effrayants hurlements de douleur qui se perdaient dans l'immensité de la nuit. Quelques moujiks brutaux, serviles par nature et par habitude, entouraient la dame, se faisant ses défenseurs et ses bourreaux, et le reste de l'équipage était composé de marins russes, espagnols, italiens et hollandais, pauvres garçons ignorants et aventuriers, qui assistaient stupéfiés au drame dont ils étaient les protagonistes, incapables d'autres protestations que celles de leur résistance physique, veilleuses par le nombre et la fuite et la première occasion. Et quand il s'en trouvait un plus avisé, sachant qu'il y a sur la terre des pages et des tribunaux, les juges et les tribunaux, et que, aboli à jamais, le vieux despotisme féodal, la société défend les faibles contre les caprices des puissants, on le comblait d'or, et puis, comme un témoin dangereux, il était abandonné à la première escale. La soirée avait une paisible sérénité de merveille. La mer était bleue, très claire, dans un ciel presque blanc. Le soleil, un soleil pâle et jaunâtre, s'éteignait lentement. À l'horizon, de hautes banquises se profilaient, étranges, dans les dernières réverbérations solaires, avec l'apparence chimérique alzard de diamants. L'Aphrodite voguait, majestueuse, sur les quiètes eaux de la mer du Nord. À la proue, Vénus victorieuse surgissait de l'écume, et sa grâce fragile, ailée, réclamait le déluge de péridots et la pluie de fleurs d'une évocation bouteillesque. Le yacht était tout blanc. Superbe navire, créé par l'industrie moderne pour agrémenter les souverains et les plutocrates. À l'avant, une sorte de tente de campagne, formée par des tapis de Smyrne, des broderies chinoises et des étoffes hindoues, défendait de l'air glacé. Le divan où Vanda reposait, menue, vibrante et cruelle comme une bestiole sanguinaire. Le supplice continuait. Le fouet subtil, insatiable, traçait un tourbillon bien au-dessus des épaules du malheureux. les muscles crispés de douleur se nouaient, formant de grosses bosses sous la peau lacérée. Les cris résonnaient, tantôt violents, stridents, désespérés, tantôt faibles, éteints, tremblants, comme des gémissements d'agonie. À la fin, le sang jaillit. Sur le dos roulèrent de grosses gouttes rouges, et la victime, n'en pouvant plus, s'affaissa sur le pont et y resta tordue, les bras encattachés au mât, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés et les lèvres entrouvertes. Wanda souriait. Partie 2. Elle s'éveilla en sursaut. Sa première pensée fut celle d'une mutinerie, d'une subite révolte par laquelle l'équipage secouait son joug. Son premier geste fut de saisir le minuscule revolver qu'elle avait sous son traversin. Mais la présence de Georgette et de ses moujiks lui fit comprendre son erreur. Et encore étourdie par le sommeil, elle interrogea « Qu'y a-t-il ? Nous coulons !» Elle sauta du lit et rapidement, sans faire le cas de ses sangs, « Cerf, n'est-ce pas Cléopâtre qui a dit qu'un esclave n'est pas un homme ?» Elle commença à s'habiller. Elle n'avait pas encore fini quand se présenta un matelot mandé par le capitaine. Il fallait se hâter. Le bateau s'enfonçait rapidement, et avant une demi-heure, il coulerait à pic. Et de temps à autre, on entendait des bruits sourds, et dans le silence résonnait sinistre le glou-glou de l'eau envahissant la cale. Enveloppée d'un long peignoir, une grande cape de fourrure sur les épaules, Wanda monta sur le pont. La nuit était sereine et glaciale. Dans la froideur bleue du ciel, brillaient les constellations arctiques et la lune brillait, blanche et impassible. À l'horizon, les montagnes de glace, baignées d'Alcazar à la Venesse, sur le pont, tout était confusion. Le capitaine donnait sans cesse des ordres et les matelots, effarés, couraient d'un côté et d'autre. De mystérieuses secousses agitaient le beau bateau avec des frémissements rapides, secs, violents, et des craquements précurseurs se faisaient entendre avec d'étranges et angoissantes intermittence de silence. Les hélices se turent et le bateau, sur place, plongeait de l'avant de temps à autre. La Russe s'en prit au capitaine qui venait à sa rencontre et d'une voix dure, métallique, en laquelle vibrait une colère contenue, elle demanda « Qu'est-il arrivé ?»« Ben, nous avons heurté un banc de glace et nous sombrons. » Elle assura avec cette impulsion dominatrice ceux qui ne se sont pas habitués à rencontrer des obstacles. Mais c'est impossible, il faut nous sauver. Et avec calme, le marin affirma, c'est impossible. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et tout a été inutile. Mais il faut nous sauver, il faut nous sauver. répéta Wanda, têtue. Il haussa les épaules et sourit, moitié compatissant et moitié ironique. Irrité, affolé par cette force plus grande que sa volonté, elle l'apostropha. Mais c'est votre faute. Ça n'est qu'un complot pour me perdre. Il sourit de nouveau. Et plus furieuse, elle menaça. Eh bien, quand nous arriverons à terre, je châtirai les traîtres. Oh, je doute que personne n'y arrive, interrompit son interlocuteur. Moi, je n'y arriverai pas. Et comme pour souligner la tragique vérité de ces paroles, les lumières du bateau s'éteignirent subitement. Oh, l'eau est entrée dans les machines, affirma-t-il, sans perdre sa sérénité. Dans 10 minutes, nous coulerons. Si vous voulez vous sauver, il faut vous embarquer de suite dans un cadeau. Wanda baissa la tête, vaincue, et se dirigea vers l'échelle de corde. 4 matelots tenaient les rames, attendaient que, déjà dans un canot, la Orloff descendit, suivie de Georgette, et le Danois sauta derrière elle. Leurs rames s'enfoncèrent dans l'eau et le canot commença de s'éloigner. L'eau était paisible, tranquille. On y voyait flotter sur la surface argentée de gros icebergs, pareils à des cristallines pierres sculptées que la tempête avait arrachées à la ville submergée, 10. Un calme impassible pesait sur le monde. Un calme de mort imprégné de tragique désolation sous la lumière blanche de la fune. Il y avait dans la nuit une horreur de planète morte, une sensation écrasante d'achèvement soudain. Et on vit de loin la fantasmagorique silhouette du yacht s'élever un moment et puis, rapide, s'enfoncer dans la nuit, mer. Se forma un tourbillon terrible. Les eaux rugirent avec un bouillonnement de cataracte. La barque courut vers le sombre abîme, ouvert pour engloutir le yacht. Et Wanda, étendue sur au fond, sentit une secousse effroyable, puis de violents plongeons. Elle entendit un cri de surprise angoissée, et à la fin, plus rien. L'Apocalypse, l'Aphrodite, avait disparu. Et le canot flottait tranquille sur la mer de glace. Dans la catastrophe, s'étaient perdus les rames, les vivres et le limon. À leur place, les quatre matelots gisaient, étourdis par le coup. Georgette Lebrun avait disparu, happé par les eaux. Néro nageait à côté de la barque. Partie 3. Le jour se levait. Pour la troisième fois, dans le ciel blanchâtre, montait le soleil, un soleil orangé, froid, sans rayons ni réverbérations, qui semblait près de s'éteindre d'un moment à l'autre. La barque, rame et timon perdus, demeurait quiète, avec la bizarre apparence d'un bateau joujou posé sur un immense miroir. L'onde était immobile, grisâtre. De gros icebergs flottaient à fleurs d'eau. Et parmi eux, on voyait surnager les épaves du bateau submergé, et l'horizon se dressait, brisé en prodigieuses stalactites comme une gothique cathédrale, d'ensorcellement l'épaisse banquise. Allongés au fond, enveloppés dans les lambeaux de couverture et dans leur caban raidi, dormaient trois matelots. À la proue, un seul, assis les coudes aux joues et le visage entre les paumes, contemplait désespérément le lointain solitaire. Oh, c'était le beau garçon que Vanda avait fait punir quelques jours auparavant. Mais à présent, sur son visage juvénile, creusé par la faim, la bouche crispait en une grimace d'anxiété et de désir, tandis que les yeux de grand enfant, ronds, dilatés d'horreur, avaient un regard cruel, d'hyène, carnivore, dévoreuse de cadavres. Ses prunelles, autrefois si claires et si lumineuses, semblait arder d'un feu malsain de Vézani, tandis que la bouche s'élargissait, vorace, insatiable. La Russe, qui, assise à la proie, dormait exténuée par le long jeûne, grelottant sous ses fourrures, ouvrit lentement les yeux, et ses regards mourants rencontrèrent les pupilles phosphorescentes de l'homme. Elle eut peur, l'horrible pressentiment de ne sait quel effrayant péril, et rapidement, elle ferma les paupières, feignant de dormir. Son visage était très pâle, comme translucide, avec des trous roux d'ivoire ancien, ses lèvres de corail décolorées, se fronçait amèrement, et deux cercles violets entouraient ses yeux qui s'éteignaient dans l'atroce macération de ses joues. Tandis qu'un feu maudit brûlait dans les entrailles du matelot, la faim de pain et la soif atroce, rageuse, exaspérée par quelques gorgées d'eau salée que dans son l'anxiété, il avait bu, se transformait en une faim d'amour furieuse, en une luxure ardente, monstrueuse, une luxure macabre de bête agonisant dans un long supplice d'ardeur. Colteusement, il se glissa vers la femme avec des gestes paresseux, sourds et élastiques, de fauve prêt à bondir sur la proie. Vanda sentit une respiration brûlante qui lui embrasait le visage, une haleine sèche, fétibrile, avec des émanations violentes d'animal féroce. Elle poussa un cri et essaya de se redresser. Mais il était déjà trop tard. Le matelot était sur elle. La victime se défendait furieusement, dans un suprême effort de colère, avec les dents et avec les ongles, tandis que lui, affolé, insensible à la douleur, luttait pour maîtriser sa proie. Et dans la paix matutinale, le groupe bizarre et tragique se débattait avec de violentes secousses qui faisaient osciller la barque comme si elle allait chavirer. Nero, au pied de sa maîtresse, grognait, menaçant, et montrait ses crocs. À la fin, Vanda, se sentant défaillir, appela au secours. « Nero, Nero, ici !» Et d'un bond, le chien fondit sur l'agresseur. Alors se produit une chose horrible, inhumaine. Homme et chien formèrent une masse confuse. Ils s'agitaient dans de terribles palpitations de douleur. Les dents fortes et blanches de l'animal s'enfoncèrent dans une main de l'ennemi qui poussa un cri de douleur mais ne renonça pas à la lutte. Et au contraire, enhardi, bataillait pour étrangler le chien. Les autres trois matelots s'étaient réveillés et, stupides, abrutis, contemplaient avec des yeux agrandis par l'épouvante ce sauvage combat. La femme, sans force, à demi-nue, restait allongée, inerte, et l'homme et le chien se démenaient, roulant ensemble, tandis que le canot, penché jusqu'au rocher du bord de l'eau, qui y pénétrait, alors gelé et coupante à la fin, l'homme réussit à sortir un couteau et d'un seul coup à ouvrir le ventre du chien qui tomba lourdement dans la mer. Alors ensanglanté, haletant, ruisselant d'eau, il se jeta sur la femme. Partie 4. Ivre d'eau de vie, en proie à un accès de délire, il criait, hurlait, chantait, en essayant de danser des matelotes absurdes qui faisaient osciller la barque comme si elle allait chavirer. Ils étaient comme des fantômes tragiques, comme ces monstrueux fantômes que nous contemplons dans les gravures des livres qui annoncent la fin du monde par la folie universelle et dans les visages livides, consumés, pleins de creux, les bouches déformées en grimaces d'agonie, en grimaces d'angoisse, tandis que les prunelles dilatées d'épouvante avaient une fixité d'obsession. Et à travers les costumes déchirés apparaissaient les corps squelettiques, les chairs violacées par le froid. Pas un souffle d'air, pas un bateau dans le lointain, ni une vague, rien. Une paix suprême, une paix de monde mort, une paix de cataclysme qui dormait dans les eaux paisibles, dans le ciel bleu, dans le soleil qui s'éteignait et dans l'infranchissable banquise. 5 jours, 5 jours de froid, de faim, de solitude et de calme, surtout de calme inerte, écrasant, comme de pan, de panthéon, de cimetière, le néant de néant, pire que toutes les bourrasques. Vanda, recroquevillée dans un coin, se sentait mourir. On lui avait volé ses fourrures, ses manteaux, ses couvertures. Et, atterrée, elle agonisait de froid, de faim, de soif. Après la matinée de sa défaite, elle avait perdu tout prestige, cette supériorité qui lui donnait des forces pour s'imposer et vaincre. Et elle se convertit en une bête humble et châtiée, sur laquelle les matelots rassasiaient tous leurs appétits, leur cruauté, leur brutalité, la férocité inconsciente qui sommeillait dans leurs âmes primitives. Toutes ces choses exacerbées jusqu'au paroxysme par la faim, et comme une horde de possédés, ils criaient et sautaient avec des gestes violents, incohérents, brusques, brisés. Leur voix rauque s'étranglait ou s'aiguisait étrangement. Fort, le plus jeune, John, le plus jeune, tomba et continua à se tordre. Les gestes resserrent les membres, mais ils ne se fussent plus volontiers violents. Ces éclats de rire se changèrent en hurlements, palpitants de douleur. Il commença à palabrer, à pleurer, se serrant le ventre avec ses mains. Nero, l'Italien, le plus âgé des quatre, un squelette parcheminé, avec deux yeux fouillés pour pupille, proposa la loi de la mer. Tous approuvèrent, résignés d'avance, à leur sort. Oui, la loi de la mer. Et à l'improviste, une voix opaque prononça « Elle d'abord !»« Oui, elle est la plus blanche !»« Oh, elle sera plus tendre !»« La plus savoureuse !»« Et puis, c'est sa faute !» Le cœur des voix s'haussait, menaçant dans le silence de la nature, comme la fatidique condamnation de l'assemblée d'une tribu primitive. Ils s'avancèrent vers elle. Folle de terreur, Wanda les vit arriver. Un cri suprême s'échappa de sa poitrine et elle s'évanouit. Tandis que le couteau se levait au-dessus de son cou et que quelques dents impatientes se clouaient déjà dans son bras.